Oui, cette année, il va y avoir un capitaine dans l'équipe.
Est-ce qu'on sait déjà c'est qui? Est-ce qu'on peut l'annoncer?
Non, on ne peut pas l'annoncer, mais ça va être annoncé d'ici la fin du camp d'entraînement.
Analyse, opinion et commentaires. Vous écoutez le supplément hockey du radioblog de Québec Presse.
Pas un ne porte de patins, ni même de casque. Pas l'ombre d'un bâton de hockey à l'horizon. Même le chandail, la célèbre fans sans flanelle, sont encore bien rangés au fond des sacs. Et pourtant, il s'agit de la grande rentrée médiatique du club de hockey du Canadien de Montréal. Je veux bien entendu parler du tournoi de golf qui se déroule comme chaque année. Et vous avez entendu Marc Bergevin, le directeur général en entrée de jeu dans l'émission. Un joueur, d'ici la fin du camp d'entraînement, portera fièrement la lettre C sur son chandail. Il y aura enfin un capitaine dans l'équipe du Canadien de Montréal. Je dis enfin parce que apparemment, pour certains médias, pour certains commentateurs, c'est essentiel. C'est vrai qu'un club de hockey sans capitaine, c'est pas la même chose, et on parle quand même du club aux 24 Coupes Stanley, la plus prestigieuse et la plus ancienne franchise de la Ligue nationale de hockey. Et c'est normal aussi qu'il y ait un capitaine. Mais un capitaine, pour le Canadien de Montréal, ça ne peut pas être n'importe qui. Et un capitaine doit être choisi avec beaucoup d'attention. C'est un rôle très important, c'est vrai. Mais en même temps, on va pas se cacher on va pas se voiler la face, on va pas se cacher les choses. Hein. Une équipe, ça prend des leaders. Puis il n'y a pas besoin, selon moi, d'avoir une lettre sur son chandail, que ce soit un C ou un A, pour être un leader dans l'équipe. Regardez par exemple Carey Price. Carey Price, par son calme, par son travail sur la glace et surtout par ses performances, et on l'a vu lors de la dernière saison, c'est un leader naturel. On regarde avec beaucoup d'attention l'émission 24CH. J'aime beaucoup 24CH. C'est sûr que c'est un format du Canadien de Montréal. Donc on s'entend que le montage est validé par le club de hockey du Canadien. Mais tout de même, ça nous permet de voir, pendant la saison régulière, qui se lève dans la chambre, qui est le plus volubile. Dans le fond, on distingue facilement les leaders dans la chambre des joueurs. À l'époque, avant l'échange de Josh Georges et puis le départ de Brian Gionta, on voyait que Georges avait un rôle assez dominant dans la chambre des joueurs. Il parlait énormément. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Al Gill, par exemple. C'est sûr que l'an passé, c'était un peu différent. Et puis, Bergevin l'a dit à plusieurs reprises, c'était une année de transition. Et j'ai pas de mal à le croire. Là, il n'y a pas de question d'avoir une cassette ou une langue de bois, de vouloir cacher aux médias. Tu sais, des fois, il y en a qui ont la théorie du complot assez facile. Hein. Ils veulent pas nommer Subban ou ils veulent pas nommer Patrick pour X ou Y raison. Il y a des clans dans la chambre des joueurs. Je pense qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes, une vingtaine de joueurs, parfois des fortes personnalités, ce sont quand même des athlètes de haut niveau, faut pas l'oublier, c'est normal qu'il y ait des clans. Regardez, par exemple, à votre travail. Si vous travaillez, si vous avez la chance de côtoyer plusieurs personnes dans une entreprise, c'est normal que des gens se rapprochent les uns des autres et forment ce qu'on peut appeler des clans. Dans une équipe sportive, c'est pareil. C'est sûr que la cohésion d'une équipe comme le Canadien de Montréal, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que, justement, un capitaine est là pour essayer d'apporter une cohérence dans le groupe. Cependant, comme je le disais, des gens comme Carey Price, je pense, je suis pas dans la chambre des joueurs, évidemment, et j'ai pas forcément d'informations privilégiées, mais quelqu'un comme Carey Price, par son calme, par son attitude, je pense, s'impose naturellement. Il y a des joueurs comme ça, et puis on pourrait revenir un peu en arrière avec l'exemple de Sakou Koivu. Sakou Koivu, je sais que certains l'aimaient pas, et puis il parlait pas français, et puis mais c'est quelqu'un qui, par son attitude, par son travail sur la glace, s'imposait par lui-même. Et bon, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu de la malchance, sans doute, sans aucun doute dans son cas. Mais à l'époque, compte tenu de l'équipe du Canadien qu'on avait sur la glace, je pense que Sakou Koivu était un capitaine naturel. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grande gueule pour devenir capitaine. Quand on regarde les différentes autres équipes de la Ligue nationale, je vais en citer juste une. Les Blackhawks de Chicago. Regardez un peu Jonathan Toews. Vous savez, Captain Baboon. Jonathan Toews, là, c'est pas non plus le plus volubile, mais c'est quelqu'un qui travaille sans arrêt, qui a une attitude de winner. Et il n'y a personne d'autre, je pense, dans l'équipe qui mérite plus le C que Jonathan Toews. Malgré quand même son relatif jeune âge, hein, il y a des vétérans chez les Blackhawks qui sont nettement plus âgés que Jonathan Toews. Maintenant, qui va avoir le C du Canadien de Montréal? Le nom qui sort du lot, c'est Max Pacioretty. Quelques semaines, quelques mois même, le nom s'impose. Après, il y a les fans de Piquet-Souban. On trouve aussi quand même quelques personnes pour parler de Brendan Gallagher. Je pense que c'est les trois qui sont le plus susceptibles d'avoir le C. Puis dans l'ordre, je pense. J'écarterai quand même Piquet-Souban. Piquet-Souban, c'est un joueur flamboyant, puis c'est quelqu'un qui est extrêmement volubile. Je pense que j'ai pas besoin d'apporter d'exemple. Il parle beaucoup, il parle énormément. Sur la glace, il fait de son mieux. Il travaille fort. C'est quelqu'un qui est impliqué, puis qui, je pense, aime énormément Montréal. Il fit avec cette ville, il fit parfaitement avec les partisans, il aime l'électricité qui est au Centre Bell et il s'en nourrit. Malgré tout, c'est peut-être aussi le genre de personne qui peut vite tomber sur les nerfs. Mettez-vous à la place de ses coéquipiers. Il peut être le fan, là. Il fait des jokes dans la chambre des joueurs. Il aimait se battre avec d'autres coéquipiers pour le fun, bien sûr. Mais imaginez côtoyer quelqu'un qui est toujours... Il a deux vitesses. Off ou à fond. Et il est comme ça dans la vie, tout le temps. C'est un hyperactif. Vous le voyez, observez-le. Excusez-moi. Observez-le, par exemple, pendant les hymnes nationaux. Ou même avant d'entrer sur la glace. Des fois, il y a des plans où on les voit sortir de la chambre des joueurs. Ce gars-là n'arrête pas de bouger. C'est un hyperactif, c'est correct. Il a le droit, et puis surtout pour le travail qu'il fait, je pense que ce n'est pas forcément un tort. Par contre, comme je le disais, côtoyer quelqu'un comme ça tous les jours... ça dépend du degré de patience qu'on a, mais ça peut vite je pense, tomber sur les nerfs. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne mettrai pas forcément la lettre C sur le chandail de Piqué-Souban. Parce que je ne suis pas certain que il soit de façon égale apprécié dans, chez tous les joueurs. Je dis pas qu'il y en a qui le détestent et puis qui la haïssent. Hein. C'est pas ça que je dis. C'est juste que moi, je vois le rôle d'un capitaine comme, oui, la personne qui, parfois, va se lever, mettons, à un match numéro 7 en séries éliminatoires, va se lever et puis va donner un bon coup de gueule. Puis là, tout le monde va l'écouter. Tout le monde va enregistrer ses paroles. Puis après, il y aura un degré de motivation. Il n'y a personne qui va dire « Hey, lui, là, il fait des gaffes sur la glace. Il n'arrête pas de parler, puis c'est lui qui va me donner des leçons. » Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un doute. Je ne penserai pas que Piqué-Souban soit le prochain capitaine du Canadien de Montréal, même si c'est certain, il doit en rêver la nuit, ce gars-là. C'est certain. Brendan Gallagher. Ça, je vous le dis tout de suite, ça serait peut-être mon choix, ça. Pourquoi ça serait mon choix? Parce que, d'abord, il parle beaucoup, mais il travaille d'une façon constante. Mettez-vous à la place de Michel Therrien. Lui, là, quand il tape dans le dos de Brendan Gallagher pour entrer sur la glace, il sait exactement ce qu'il va avoir. Il sait exactement ce qu'il va lui apporter. Il fonce, il va foncer au filet, et il va, s'il n'a pas la rondelle, il va être fatigant pour les adversaires. Il va être sur leur dos sans arrêt, il va être en avant du net, il va prendre des coups. Je sais pas si vous êtes abonné à la page Facebook du Canadien de Montréal, par exemple, ou si vous allez sur le site régulièrement. Ces derniers mois, ils ont demandé aux autres joueurs de l'équipe actuelle, ça serait quoi le joueur idéal? Tu sais, par exemple, les mains de Pavel Datsyuk, la vision du jeu de, je sais pas moi, Sidney Crosby. Souvent, quand on est rendu à parler du cœur, le nom de Brendan Gallagher est sorti très souvent. Et c'est vrai, Brendan Gallagher, là, c'est vraiment le cœur de l'équipe. Il va se donner corps et âme, il va se blesser, il va se faire mal, tout ça pour ses coéquipiers, pour l'équipe. Donc, par son travail sur la glace, il montre déjà l'exemple, il est un leader. Et en plus, il n'a pas peur de s'exprimer. Donc, pour moi, ça serait un peu le candidat idéal. Personnellement, c'est à lui que je mettrais le C. J'en ai parlé un peu autour de moi, et puis ce qu'on me dit parfois, c'est « Mais Brendan Gallagher a joué de même, il n'aura pas une très longue carrière. » Peut-être que dans 5 ans, il sera blessé, il sera usé. Il a beau... on dirait qu'il est fait en caoutchouc, ce gars-là. Là. Mais effectivement, tu sais, un gars qui a une petite taille, qui joue comme si c'était un power forward, c'est assez impressionnant. Il se frotte à des gens comme Zdeno Chara. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic, c'est quelque chose. Moi, je répondrais à ça tout simplement que ben, s'il est capitaine pour 4 ans, il sera capitaine pour 4 ans. Capitaine, même pour une équipe comme le Canadien de Montréal, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il doit être capitaine pour les 20 prochaines années. J'exagère, évidemment, mais c'est sûr que Sakou Koivu est resté 10 ans capitaine du Canadien. Brian Janta est resté 4, 5 ans, je ne me souviens plus. Pourquoi Brendan Gallagher ne pourrait pas rester au moins 4 ans, 5 ans capitaine du Canadien de Montréal? Et puis rien n'indique qu'il pourrait pas l'être encore plus longtemps d'ailleurs. Cependant, le choix unanime, non, pas tout à fait unanime, à vrai dire, mais le choix logique, si on écoute les commentateurs, c'est Max Pacioretty. Puis, je n'ai pas grand-chose à dire non plus contre Max Pacioretty. C'est l'attaquant numéro 1 du Canadien de Montréal. Je pense qu'il est capable de prendre la pression. Il aime l'équipe. Il aime le Canadien de Montréal. Il aime Montréal. Pourquoi pas lui donner un C? Il n'est pas aussi volubile qu'un Gallagher ou un Subban, c'est certain. Mais de ce que j'ai pu voir, il n'a pas peur d'affronter les médias. Il n'a pas peur de dire quand ça va pas. Ça pourrait être effectivement un bon choix. Maintenant, je suis pas dans l'équipe du Canadien de Montréal, encore une fois, je sais pas. Apparemment, le choix est arrêté, si on comprend les mots de Marc Bergevin. Mais dans le processus, il indique qu'il veut en parler au reste de l'équipe, voir comment le choix est perçu par le reste de l'équipe. Et puis c'est vrai que c'est important. Si il n'y a pas une relative unanimité au sein de l'équipe pour le futur capitaine, ça va pas bien. Parce que c'est le capitaine, ça va être le capitaine pour plusieurs années. Et c'est le capitaine qui est censé nous amener à la Coupe Stanley. On va pas se voiler la face. Le club du Canadien de Montréal se construit, surtout depuis l'arrivée de Marc Bergevin, pour aller chercher le Saint Graal. Donc, la fenêtre d'opportunité vers l'accession à la Coupe Stanley s'ouvre, c'est entrouverte en tout cas, et donc le capitaine qui va être choisi aujourd'hui, c'est le capitaine que l'on veut pour essayer d'aller remporter la Coupe Stanley, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Mais ça va pas être pour dans 10 ans. Donc le choix est important. Évidemment aussi, ça va permettre aux animateurs de radio, de télévision, aux gens de l'antichambre par exemple aussi, hein, cette émission très endormante à RDS, de pouvoir chialer sur le fait que le capitaine du Canadien de Montréal ne parle pas français. Quand il n'y a rien à dire sur l'équipe, les vieux sujets de conversation et de tribunes téléphoniques vont ressurgir. Max Pacioretty ou Brendan Gallagher ou même Piquet Subban ne parlent pas français, c'est un scandale, c'est un manque de respect pour les partisans, bla 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 bla. On oublie de dire qu'on parle d'un club de sport, nous ce qu'on veut c'est gagner, que le capitaine soit canadien-français, américain, européen, chinois, grec, je m'en sacre. Moi, je veux qu'il fasse sa job, je veux qu'il porte l'équipe sur ses épaules, pas trop quand même. Comme je vous l'ai dit, ça prend plusieurs leaders dans l'équipe, et il y en a déjà plusieurs, et quelqu'un qui apporte un plus à l'équipe. Que le C soit pas une lettre qui l'étouffe, mais plutôt une lettre qui le sort encore plus du lot, le révèle encore plus aux yeux des partisans et de son équipe. Parfois, des individus, quand on leur donne de grandes responsabilités, soit ils sentent trop la pression, ils sont focussés sur cette pression et sur ces responsabilités que finalement, on se rend compte que c'était pas un bon choix, ils finissent par s'écrouler sous la pression. Puis parfois, dans des situations difficiles, ça permet de voir que finalement, la personne qu'on a choisie se révèle encore plus grande qu'on imaginait en tant que leader. La bonne personne au bon endroit. Hein. On en parle souvent en histoire, mais les grandes équipes sportives ont souvent eu de grands capitaines. Et le Canadien de Montréal, évidemment, je vous apprends rien. Quand on voit tous les capitaines qui se sont succédés dans l'histoire de la Sainte Flanelle, je vais juste citer un nom, parce qu'il il a disparu l'année dernière. Jean Béliveau. Ça, c'était un capitaine. Et j'espère, de tout mon cœur, que le prochain capitaine sera être digne de cet héritage qu'a laissé Jean Béliveau et qu'il s'en servira comme source d'inspiration dans le fond. Vous voulez réagir? Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions? N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante podcast@quebecpresse.com podcast@quebecpresse.com. Maintenant qu'on sait que quelque part, quelqu'un est en train de coudre une lettre C sur un chandail du Canadien de Montréal, on peut maintenant passer aux affaires en cours. Et une des affaires qui revient souvent dans les tribunes, dans les chroniques des commentateurs sportifs, c'est le cas de Galchenyuk. Galchenyuk est un joueur de centre naturel. Il a pratiquement toujours été un joueur de centre, sauf que depuis qu'il est avec le Canadien de Montréal, évidemment, on l'a surtout mis à l'aile, même s'il y a eu quelques expérimentations au centre. Le rôle d'un joueur de centre est quand même un peu plus difficile qu'un joueur, qu'un ailier. C'est pas non plus un défenseur, c'est vrai, mais tout de même, il y a une certaine responsabilité qui incombe au joueur de centre. Et c'est pour ça qu'il manquait encore, sans doute, un peu d'expérience au jeune Galchenyuk pour finalement devenir le joueur de centre qu'on espère tous. Galchenyuk, il ne faut pas l'oublier, il a quand même été repêché au troisième rang, du repêchage. Galchenyuk, on s'attend à ce qu'il soit l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur du Canadien de Montréal. C'est sûr qu'il risque de partager la place avec Max Pacioretty, mais Galchenyuk, s'il ne devient pas le premier centre du Canadien de Montréal, ça voudra dire qu'on aura échoué quelque part. Alors c'est vrai que dû à son jeune âge, il est quand même arrivé avec le club alors qu'il avait 18 ans. Jouer dans la Ligue nationale, c'est pas comme jouer dans la Ligue américaine, et encore moins jouer dans une équipe junior. C'est certain que ça prend un apprentissage, ça prend aussi de corriger peut-être certains problèmes dans le rôle défensif que peut avoir un joueur de centre, dans le repli défensif, par exemple. Donc, il n'y a vraiment pas à paniquer. On voit très très bien que Galchenyuk est un talent naturel. Il faut qu'il prenne sans doute encore un peu de poids. Il est encore, j'allais dire en pleine croissance, non plus tout à fait, mais tout de même. On bâtit un athlète dans les ligues majeures sur plusieurs années. Et on sent que Galchenyuk, année après année, mois après mois, jour après jour, apprend et progresse. Sa progression est quand même bonne et absolument pas inquiétante. Évidemment, on a posé la question à Michel Therrien est-ce que Galchenyuk, Alex Galchenyuk, va finir par jouer au centre? Michel Therrien a répondu par la positive. Marc Bergevin, d'ailleurs, également, est revenu sur le sujet. Il compte faire jouer, dès le début de la saison, Alex Galchenyuk au centre. Écoutons Michel Therrien.
Je me suis assis avec Alex au courant de l'été, au repêchage, quand il était en Floride. Et je lui ai fait part de mon plan, de ma vision. Et je crois sincèrement qu'il est rendu prêt à cette prochaine étape-là. On veut qu'il continue. On aime beaucoup la progression d'Alex, honnêtement. Donc, après y avoir parlé, puis je voulais qu'il y ait un été à se concentrer, pas qu'il soit entre deux chaises, faire part tout de suite de notre plan et accepter le défi avec beaucoup d'enthousiasme, que j'étais très content aussi. Maturité, écoute. L'important d'un jeune joueur, faut pas qu'un jeune joueur perde sa confiance. On l'a mis à quelques occasions. Ça fait partie d'un processus qui était pour se développer aussi en tant que joueur de centre. On voulait qu'il apprenne la ligue. Faut pas oublier qu'il est arrivé avec le Canadien à 18 ans. Donc, mais quand tu regardes sa progression, que ce soit au niveau de ses performances, au niveau des points, des statistiques, que sa compréhension du jeu, que son développement physique aussi. Donc, pour nous, c'est tous des aspects qui étaient importants pour nous, qu'on a porté beaucoup attention. Et on est prêt à passer à une autre étape.
Plus conscient de son jeu défensif aussi, peut-être?
Oui, mieux comprendre. C'est la compréhension de la game. C'est beaucoup, beaucoup plus ça. T'sais.
Donc, Michel Therrien va faire jouer Alex Galchenyuk au centre. Merci d'ailleurs à RDS pour l'extrait. Il est revenu aussi sur le développement physique du joueur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des images, des photos ou des vidéos d'Alex Galchenyuk cet été. Il s'est entraîné, il a vraiment pris au sérieux son entraînement. Je ne dis pas nécessairement que ce n'était pas le cas les saisons précédentes, mais on a senti une grande intensité dans son entraînement. Et je pense que Michel Therrien en a aussi parlé, d'ailleurs, dans l'extrait. Il a acquis de la maturité. Et c'est normal. T'sais. Vous et moi, je ne veux pas m'exprimer forcément pour vous, mais je peux vous dire, moi, à 18 ans, non, je n'étais pas vraiment mature. Puis, je ne gagnais pas des millions. Alors imaginez un jeune, 18-20 ans, avec un gros salaire, avec, tu sais, faut pas oublier que c'est un athlète, c'est l'athlète de l'équipe la plus appréciée de la ville, même de la province, le Canadien de Montréal, beaucoup de fans qui vont faire signer, demander des autographes, faire signer des chandails, etc. Tu sais, c'est normal que ça monte à la tête, c'est normal que ça prenne une structure, que ça prenne des gens, un encadrement pour gérer ce monde-là. Et on sent que Alex Galchenyuk, il a aussi un petit côté flamboyant, c'est sûr, on est loin de piquer Subban, mais on sentait qu'il avait quand même besoin parfois d'être recadré. Cette maturité, il va encore en accumuler avec les années, c'est normal. Mais on sent que il prend ça au sérieux. En tout cas, c'est ce que j'ai senti en voyant encore une fois l'intensité de l'entraînement qu'il a eu entre les deux saisons. Alors Galchenyuk au centre. Là, on regarde un peu l'alignement, c'est sûr que c'est un peu notre jeu favori avant le début de la saison. Il reste quand même aujourd'hui 27 jours, numéro 27 justement, c'est un add-on. 27 jours donc avant le premier match de la saison régulière. On va voir Galchenyuk au centre, et puis là on regarde, on a Desharnais, on a Plekanec. On a maintenant Galchenyuk. Il y a Larseller. Je ne vais pas parler forcément des joueurs de centre de quatrième trio, mais on voit qu'il y a comme une congestion au centre. Admettons que nous laissons Desharnais avec Pacioretty. Plekanec qui va jouer sur quel trio? Le deuxième? Le troisième? C'est sûr que ça peut changer dans le courant de l'année. Et on sait très bien que Michel Therrien, parfois, change 15 fois de trio, ses trios pendant un match. Mais tout de même, admettons que pour Galchenyuk ça fonctionne bien et puis que il forme un duo peut-être avec Pacioretty ou peut-être avec son compatriote Semin, puis que ça clique. Puis là, ils engrangent des points, puis ça marche bien. Desharnais, il va rester là, avec Pacioretty, Plekanec, on fait quoi? C'est un joueur de centre qui est très utile à l'équipe, il peut jouer dans toutes les situations. Et je parlais de Gallagher en début d'émission. Plekanec, c'est un peu pareil. Therrien l'envoie sur la glace, il sait exactement que Plekanec va faire son maximum et qu'il ne mettra jamais l'équipe dans une fâcheuse situation. Des rares exceptions près, mais nul n'est parfait. Donc au centre, comme je disais, il y a une congestion. Il faut souhaiter que pour Galchenyuk, ça puisse fonctionner. Et puis, je ne vais pas passer l'extrait, je pense que c'est Marc Bergevin qui s'adressait aux journalistes, disait qu'ils allaient tout faire pour que ça fonctionne avec Galchenyuk. Ils allaient mettre tous les éléments nécessaires pour que ça marche cette fois. C'est correct de faire des essais. Dans les saisons précédentes, il était encore jeune, il était en plein développement. C'est normal, ça prend. Il faut bien intégrer le système de jeu, faut être à la page, faut être au niveau de la ligne nationale. Bon, maintenant, c'est correct, les expériences, c'est passé. Maintenant, il faut passer à l'action. Et il faut voir l'avenir, puis comme je disais tantôt, on est dans une phase où on se prépare à aller chercher la coupe. C'est sûr que il y a 2 ans, on est arrivé en finale de l'Association de l'Est. Pardon. Mais il faut que on y arrive de plus en plus souvent à cette étape. Il faut qu'on aille chercher la finale. Et après, tout est possible. Pour ça, il faut des joueurs établis. Arriver en séries éliminatoires, en sachant pas exactement qui sera le premier centre, si Galchenyuk, finalement, ça fonctionne ou pas. Peut-être que finalement, on va le faire jouer à l'aile. Non, ça marche plus. Faut que ton centre numéro 1, tu sois sûr de lui, sauf blessure, bien entendu. Ton centre numéro 2, tu saches à peu près qui c'est. Ton centre numéro 3, pareil. Tes ailiers, que tu fasses des changements de temps en temps, c'est correct. Mais qu'au début de match, tu aies un plan de match clair, précis, et chaque personne, chaque joueur connaît son rôle à la perfection. On pouvait se permettre encore d'avoir des doutes ou des questions les saisons précédentes. Maintenant, il faut y aller, il faut foncer. La fenêtre d'opportunité, comme je le disais tantôt, elle s'ouvre, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester ouverte pendant 10 ans. Que fait-on donc, par exemple, de Desharnais ou de Plekanec? Plekanec, moi je l'aime beaucoup, je pense que c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. Pourquoi je l'aime? Ben, parce que tu peux le faire jouer dans n'importe quelle situation. Désavantage numérique, il est très très bon. Avantage numérique, à 5 contre 5, les mises en jeu. Et on sait qu'au niveau des mises en jeu, ça n'a pas été terrible durant les dernières saisons. Si on se sépare de Plekanec, et c'est vrai qu'il arrive en fin de contrat, alors évidemment c'est normal, c'est naturel de se poser ce genre de questions. Si on se sépare de Plekanec, il faut savoir que en désavantage numérique, il va peut-être manquer quelque chose. Remarquez, on a dit un peu la même chose de Josh Georges, celui qui arrêtait parfois les rondelles même avec son casque. Et puis finalement, le désavantage numérique, ça a quand même relativement, ben ça a même tout de même très bien été, en fait, la saison précédente. Je ne parlerai pas de l'avantage numérique qui est anémique. Par moment, on voyait des flashs, hein, c'est pas passé loin, il y a des buts, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a souvent entendu certains matchs les retentir la rondelle sur les poteaux des buts adverses. Donc, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Et peut-être que l'apport d'Alexander Semin va donner un peu plus de punch à cette attaque massive. Semin, Pachoretti, peut-être Galchenyuk, Subban, Markov. Ça peut être bon, ça a de l'allure, ça pourrait avoir de l'allure, notre attaque à 5. Desharnais. J'aime beaucoup Desharnais, puis je sais que ça va peut-être faire grincer des dents ce que je vais dire. Desharnais est un joueur qui a également un cœur gros comme le Centre Bell. Un peu à l'image de Gallagher, Desharnais s'est toujours battu dans sa vie. Il s'est battu, inutile de revenir sur les raisons pourquoi il a dû se battre dans les mineurs, dans la Ligue américaine et maintenant dans la Ligue nationale pour garder sa place. C'est pas quelqu'un qui, naturellement, on donnerait une place sur un premier trio ou même dans un top 6. Des attaquants de n'importe quel club de la Ligue nationale, d'ailleurs. Il doit se battre, il est toujours également la pédale à fond, appuyé à fond, dans le plancher. Et le problème, c'est qu'il a de la misère. Surtout en début de saison. Regardez les débuts de saison de ces 2-3 dernières années. Il a beaucoup de mal à prendre ses marques. Il se fait très facilement étamper le long de la bande, il perd la rondelle, et puis après, plus rien. Les débuts de saison de David Desharnais sont assez laborieux. C'est vrai qu'il se replace. Arrivé fin octobre, début novembre, Desharnais se replace, et puis ça marche bien, il fait de belles passes à son ailier Pachoretti, puis il fait produire Pachoretti. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train... Encore une fois, j'aime beaucoup Desharnais et puis je ne dis pas qu'il est acheté. Le problème, c'est qu'il doit faire plus, toujours plus que les autres pour garder sa place dans l'alignement. Il doit en faire plus à cause de son physique. Il doit s'imposer beaucoup plus que n'importe quel autre joueur sur la glace. Il n'a pas le dynamisme, l'énergie d'un Brendan Gallagher, donc il doit en fournir plus de travail. Et j'ai l'impression qu'arrivé en fin de saison, en séries éliminatoires, il n'a plus de jus. Et là où les autres joueurs, sont capables de monter d'un cran leur niveau de jeu en séries éliminatoires, tu sais, comme s'ils étaient à 100% et puis rendus en série, ils sont capables d'aller chercher le 110%, on voit que Desharnais, non, il ne peut pas aller plus loin. Il a donné tout, puis il va continuer à bien travailler pendant les séries éliminatoires. Il va donner son maximum, mais il ne va pas pouvoir monter d'une coche son jeu. Et ça paraît. Bien sûr, il y a les dernières séries éliminatoires, mais l'année d'avant, ça avait été pareil. Sa production a été anémique. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'était pas tout seul. Et c'est vrai. Mais son jeu individuel, déjà, ça paraît sur la glace. Ça paraît qu'il a vraiment de la difficulté. Ça paraît que là où il se fait frapper régulièrement, parce que c'est quand même le premier centre du Canadien de Montréal, ça l'est en saison, ça l'est encore plus en séries éliminatoires. C'est un des joueurs les plus marqués en séries éliminatoires avec Max Pacioretty, parce que c'est le premier trio. Et là, on sent qu'il manque quelque chose. autant j'ai peur qu'en échangeant Plekanec, on perde beaucoup, parce que c'est un joueur polyvalent, autant avec Desharnais, je pense qu'il est beaucoup plus remplaçable. C'est sûr qu'il va manquer quand même de quoi. Je vous le dis encore, c'est quelqu'un qui a tellement de cœur et qui a l'équipe du Canadien de Montréal à cœur. C'est son équipe. Il est du coin. Mais on parle d'un club professionnel. On ne peut pas fonctionner avec des sentiments. Parce qu'avec les sentiments, moi, j'aurais gardé des gens comme Francis Bouillon, j'aurais gardé des gens comme Bégin, Steve Bégin, celui qui a laissé quelques dents au Centre Bell sur les côtés du Centre Bell, surtout pendant un match, je ne sais pas si vous vous rappelez, un match contre Boston, où il était sorti avec quelques dents en moins, quelques petites réparations avec les soigneurs, puis il revenait avec un casque intégral sur la glace, dans le même match. Des gens de même. C'est sûr que si on fonctionnait juste à l'émotion, on les garderait, et je garderais David Desharnais. Le problème, encore une fois, on ne veut pas juste faire les séries à Montréal. C'est terminé, ça, l'époque où on va essayer de faire les séries, c'est notre objectif numéro un. Non, fini. Fini. On a un troisième choix qui va devenir normalement le centre numéro un. On a un Max Pacioretty qui fait partie des meilleurs ailiers de la Ligue nationale. On a Piqué Subban qui a remporté le Norris il y a quelques années et qui a été finaliste pour ce même trophée l'an passé. On a Carey Price qui est considéré par ses pairs comme le meilleur joueur de toute la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ah, j'oubliais. Un des meilleurs directeurs généraux et un entraîneur qui est très bon pour développer ses joueurs. Il faut quoi? Il manque peut-être un ou deux ajouts à l'attaque, par exemple. Mais justement, est-ce que c'est pas le temps d'échanger quelqu'un comme David Desharnais, puis aller chercher un gros ailier, peut-être pour aider le premier ou le deuxième trio? Regardez des équipes comme Chicago, je les cite souvent en exemple. Los Angeles, c'est sûr, ils n'ont pas fait les séries l'an passé, mais ça reste quand même un gros club, une grosse puissance dans l'Ouest, qui plus est, qui n'est vraiment pas une association facile. Ils n'ont pas juste un grand trio défensif et puis offensif plutôt, et puis après des trios qui marquent de temps en temps. C'est très bien, parfois l'harceleur a des flashs, il compte des buts, surtout en séries éliminatoires, hein, on se souvient. Heller, puis un certain Bourque en séries éliminatoires, tout un duo offensif. C'est sûr qu'on peut compter sur des joueurs comme ça, et puis c'est correct qu'il y ait des flashs comme ça pendant les séries éliminatoires, même des quatrièmes trios qui deviennent très productifs. Mais ça prend des forces. Ça prend au moins deux solides premiers trios qui font peur à l'adversaire, que l'on peut un peu changer, parfois changer un peu les duos, les trios entre les six premiers joueurs, histoire de s'adapter à l'adversaire, s'adapter au système défensif de l'adversaire. Desharnais est remplaçable, peut-être moins Plekanec. Ça ne veut pas dire que Plekanec ne sera pas échangé. Encore une fois, c'est un avis personnel. Mais je pense qu'on prend plus de risques à échanger Plekanec. Ça va être, à mon sens, plus difficile de remplacer Plekanec. Et je sais. Sans doute. Certains d'entre vous en ce moment sont en train de se dire « Oui, mais Plekanec en série, c'est pas fort non plus. » C'est vrai. Ça mériterait une meilleure production de la part de Plekanec. Puis, il parlait pas du fait qu'il est européen, là. Je pense pas que... c'est valable pour certains joueurs, je pense pas que ça soit valable pour Plekanec. Sauf qu'il y a une grande différence entre les deux centres. Desharnais a toujours joué avec le meilleur ailier de l'équipe. Il a toujours, sauf à de rares exceptions, il a toujours joué avec Pacioretty. Il n'a pas d'excuses. Il a le meilleur avec lui. Il a le meilleur. Plekanec, lui, il a eu combien d'ailiers différents pendant la saison? On lui a mis à peu près n'importe qui avec lui. N'importe qui. Et on le fait jouer énormément. Et ça, le problème, c'est que à force de faire des erreurs, de se faire punir, et donc de sortir le désavantage numérique, et puis évidemment, la mise en jeu, qui va la faire? Plekanec. On n'a que lui. Plekanec va faire les mises en jeu, il va rester là sur la glace, essayer de faire son maximum pour contrer l'offensive adverse. Vous vous étonnez pas qu'à la fin de la saison, quelqu'un qui joue parfois 20 minutes par match soit brûlé, puis qu'en rendu en séries éliminatoires, il se retrouve encore avec des ailiers pas trop sûrs. Là, tu sais, on va te mettre lui, là, essaye de le faire produire, fais ton maximum. Ah, on se fait encore punir, bon, redésavantage numérique, qui fait la mise en jeu? C'est Tomáš. Oui, je suis beaucoup plus conciliant pour le manque de contribution de Plekanec par rapport à Desharnais. Mais j'estime que Desharnais, le problème, c'est que rendu en série, il est déjà au bout de ses capacités. Il est déjà au bout de son talent. C'est un joueur talentueux, là. Il est intelligent. Mais, encore une fois, je me répète, mais il n'est pas capable de monter son jeu d'une coche. Plekanec, il va rester bon. C'est juste que on le fait trop jouer. Ça va prendre un peu plus de talent pour les désavantages numériques en particulier. Puis si seulement l'avantage numérique... Tu sais, je demande pas... On a pendant des années... était dans les sommets du classement en avantage numérique. Souvenez-vous, hein? Sheldon Surrey, il y a eu Mark Streit, il y a eu le petit Bergeron, Marc-André Bergeron, il y a eu... qui a eu d'autres? Il y en a eu plusieurs comme ça qui, à la ligne bleue, t'enfilaient les buts à chaque match. Et on était premier ou deuxième dans toute la Ligue nationale au niveau de l'avantage numérique. C'est plus le cas. On est dans les fins fonds du classement en avantage numérique. Je ne demande pas à ce qu'on revienne au sommet. Imaginez, on a fait 110 points l'an passé, en saison régulière. 110 parmi les meilleurs. Avec une équipe qui était encore en phase de développement. Un bon développement, un bon niveau de développement. On n'est pas au début du développement de l'équipe du Canadien de Montréal, c'est pas ce que je dis. Mais quand même, une équipe qui avait encore besoin de maturité. On était dans les fins fonds du classement. Imaginez juste la même équipe, avec peut-être un peu plus d'offensive, puis se retrouver au milieu du classement en avantage numérique. Imaginez, ça nous ferait peut-être gagner quelques matchs supplémentaires sur une saison régulière, quelques points supplémentaires, et nous assurer une première place dans la division. Évidemment, l'avantage de la glace. Et j'espère aussi moins faire contribuer quelqu'un comme Tomáš Plekanec. Mais, comme je le disais, on est en fin de contrat. Apparemment, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas eu d'approche avec le clan Plekanec récemment par le club du Canadien de Montréal et surtout par Marc Bergevin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion contractuelle avec Plekanec. Donc oui, il pourrait être échangé. Et puis, il pourrait fortement intéresser certaines équipes. C'est un joueur fiable. Sérieusement, encore une fois, c'est un joueur qui est très sous-estimé, mais qui est d'une fiabilité incroyable. C'est certain qu'il va intéresser du monde. Est-ce que on va pratiquer un échange maintenant? Ou est-ce qu'on va attendre que Galchenyuk soit vraiment à l'aise dans son rôle de premier centre ou de deuxième centre pour l'instant? Puis on va se dire, ok, ça marche, on va attendre la fin février, début mars, hein, au moment de la date limite des échanges, et puis on va envoyer Plekanec dans une autre équipe en échange d'un choix, par exemple, au prochain repêchage. Il est en fin de contrat, on n'aura pas mieux. Ou on aura un joueur de location. Dans le cas de Desharnais, je pense que sa valeur est moindre. En échange de Desharnais, on ne va pas avoir un premier centre. Hein, oubliez ça. Par contre, on peut avoir peut-être un ou deux attaquants jeunes. Peut-être un qui ira finir avec... c'est plus Hamilton hein, maintenant, c'est St. John's. Un autre qui jouera peut-être sur un quatrième ou un troisième trio. Faut pas demander la lune pour Desharnais, c'est certain. On pourrait peut-être être chanceux. Marc Bergevin est un très bon DG, donc on pourrait y avoir une surprise et puis il pourrait nous chercher un joueur très intéressant. Gallagher, premier centre. Reste à savoir avec qui il va jouer, avec quel duo. Est-ce que ça va être Semin, est-ce que ça va être Pacioretty? Je pense qu'il faudra essayer les deux. Dans un premier temps, et voir avec qui ça fit le mieux. Peut-être que la chimie naturelle entre deux Russes, ça va tout de suite cliquer sur la glace. Peut-être. En même temps, Pacioretty et Galchenyuk, je pense que ce sont deux joueurs qui s'apprécient dans la chambre. Pourraient aussi avoir... une bonne chimie entre les deux joueurs. Ils connaissent bien le système de jeu du Michel Therrien. Ça aussi, c'est un avantage. Faut pas oublier qu'Alexander Semin va devoir un peu s'adapter. Je pense qu'il a beaucoup de choses à se prouver et à prouver aux autres, surtout. Il a un an de contrat, faut pas l'oublier. Au mois de juillet, il devra signer avec une équipe. Ça pourrait être avec le Canadien de Montréal, ça pourrait être avec une autre équipe de la Ligue nationale. Si ça marche vraiment pas, on pourrait aussi très bien l'échanger, rendu en mars. Ça serait dommage. Je pense que Semin a énormément de potentiel. C'est un joueur qui est très rapide, talent naturel, qui peut produire. Imaginez, là, Galchenyuk et Semin sur la glace. Imaginez la vitesse de jeu que ces deux joueurs peuvent avoir. Ça pourrait être la panique chez la défensive adverse par moment. Hein. Les échappées qui pourraient y avoir. Mais bon, encore une fois, c'est la meilleure période de l'année pour faire des trios virtuels sur une feuille de papier et puis inonder les circuits téléphoniques des radios sportives, de la radio sportive, la nouvelle radio sportive, que je commence à écouter d'ailleurs. C'est le fun, hein. Je sais pas vous, moi j'aime ça, cette période de l'année où on sent que ça s'en vient, là. La saison, on a hâte que ça commence. Bon, l'été c'est correct, là, mais en général, après la fin de semaine de la fête du travail, on se dit que c'est la dernière fin de semaine, le dernier congé de l'été. En général, après, bon, les journées sont plus courtes, les nuits sont plus fraîches. S'en vient le tournoi de golf aujourd'hui jeudi et là on commence à parler de hockey, on voit tous les médias là. Oh, ils sont tellement contents, ils sont tellement heureux, ça a été les vacances, mais là tout d'un coup il se passe quelque chose. Et là le 91.9 à Montréal, la chaîne sportive, la radio sportive, on le sentait ce matin. J'ai pas écouté toutes les émissions. J'ai pas écouté l'émission, par exemple, en entier de Michel Langevin ce matin, mais le peu que j'ai entendu, là, on sentait juste dans le ton de sa voix qu'il était heureux. Là, d'abord, la radio va commencer sérieusement à faire de l'audience, normalement. Je pense que c'est correct. RDS, même chose. RDS, là, les yeux s'illuminent. Je voyais Chantal Maccabée sur Facebook être aux anges. C'était sa rentrée. À TVA Sport, c'est pareil. Eux aussi, là, je pense qu'ils ont hâte que l'argent rentre. surtout l'argent publicitaire. Ça n'a pas été facile la dernière année pour eux, pour RDS non plus. Hein. Le gâteau a la même taille que les autres années, sauf que cette fois, il a été partagé en deux. C'est sûr qu'il y a les séries éliminatoires pour TVA Sport, mais la saison régulière, c'est plus pour un seul réseau. Maintenant, ils se le partagent à deux. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, de reparler des trios, de peut-être qu'il y aura, comme je vous disais, des échanges. Je pense que Michel Therrien et Marc Bergevin vont d'abord observer ce qui se passe au camp d'entraînement qui commence. Là, ça va être les tests physiques, la première journée, et puis après, le véritable camp d'entraînement. Donc, je pense que Marc Bergevin et Michel Therrien vont beaucoup jaser dans les prochains jours. Vous regardez un peu aussi des gens comme Scherbak. Lui, il va vouloir une place avec le grand club. Scherbak, c'est pas le genre de joueur qui va se dire « Oh, moi, je suis pas pressé, je vais jouer une année ou deux dans la Ligue américaine. » Non. Tous ces jeunes joueurs, même s'ils ont été repêchés au mois de juin dernier, veulent faire le grand club et ils vont se battre. Donc ça va être très intéressant de voir les matchs préparatoires, de voir un peu les matchs aussi inter-équipe. Et puis, peut-être que des décisions vont se prendre d'ici la fin du camp d'entraînement et pas juste pour le capitaine. Il y a déjà eu des échanges. Durant cette période, moi je me souviens en particulier de Mike Ribeiro. Mike Ribeiro, le camp d'entraînement avait commencé, et même je pense que la saison régulière allait bientôt commencer. Bang! Mike Ribeiro est changé. On pourrait très bien voir donc un échange peut-être de Plekanec, de Dernay ou d'autres joueurs. Lars Eller aussi, c'est pas quelqu'un. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a suffisamment de constance pour avoir un poste assuré avec le Canadien de Montréal ou avoir un avenir assuré avec le Canadien de Montréal. Puis je ne parlerai même pas des défenseurs. Là aussi, il y a une sérieuse congestion. Tinordi, je ne sais pas si vous le savez, mais Tinordi, si on le renvoie dans la Ligue américaine, il passe au ballotage. Donc, il y a deux solutions. Soit on renvoie un autre joueur, jeune joueur, dans la Ligue américaine, soit on le fait jouer, soit c'est un salaire qui fait rien à part chauffer un siège dans la galerie de presse. Beaucoup, beaucoup de choses donc à venir. On en reparlera. De toute façon, il y aura d'autres suppléments hockey du Radioblog de Québec Presse. Je pourrais aussi... finir en vous parlant peut-être de Patrick Kane. Voyons donc, Patrick Kane. Je rappelle un peu les événements. Il y a des allégations de viol contre une jeune femme qu'il avait rencontrée, qu'il avait emmenée chez lui à son domicile le 2 août. Il devait passer cette semaine devant le grand jury. Finalement, ça a été reporté. Peut-être qu'il y a des discussions entre les deux parties. Peut-être qu'il y aura un règlement hors cours. C'est d'ailleurs des choses qui arrivent régulièrement. Le problème, c'est que je pense que les Blackhawks ne sont pas forcément ravis d'avoir Patrick Kane et surtout l'image qui traîne maintenant avec lui au sein de leur équipe. Les Blackhawks, là, c'est pas Columbus, là. C'est quand même une des équipes originales, une équipe solide, avec c'est une grosse organisation, une grande organisation. Je suis pas sûr qu'ils veuillent garder Patrick Kane. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je sais qu'il y a énormément de discussions, et pas juste entre les avocats, il y a des discussions aussi entre l'équipe, le clan Kane et puis la Ligue nationale. C'est une grosse affaire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On peut chacun avoir son opinion là-dessus. Il n'est pas jugé, donc jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Mais tout de même, c'est pas la première fois qu'il a des problèmes pas aussi gros, mais on... l'attitude de Patrick Kane hors glace a toujours été assez particulière, on va dire. Donc, qu'est-ce qui va être décidé ? Même chose, on en saura certainement plus d'ici le début de la saison. Comme je vous disais, on aura sans aucun doute l'occasion d'en reparler ensemble. C'était le premier numéro du supplément hockey du radioblog de Québec Presse. C'est un supplément que j'aurai l'occasion de faire, je pense, régulièrement, que je mettrai un peu à part des autres radioblogs. Peut-être que pour certains, vous n'écouterez jamais parce que le hockey, vous n'aimez pas ça. Peut-être qu'à l'inverse, pour d'autres, vous n'écouterez que le supplément hockey parce que la politique, ça vous intéresse un peu moins. C'est pour ça que j'ai voulu un peu les séparer et pas les entremêler comme je voulais faire d'ailleurs au départ. J'espère que vous avez apprécié. Je rappelle les adresses courriel pour m'écrire si vous voulez réagir, si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez aussi participer d'ailleurs, pourquoi pas participer à ce podcast. Écrivez-moi à l'adresse suivante podcast@quebecpresse.com, podcast@quebecpresse.com. J'attends vos commentaires. Comme je vous l'ai dit, la saison n'est même pas encore commencée, qu'il y a déjà une heure de contenu passé. Fait que on se retrouve dans un prochain numéro. Je vous souhaite en attendant de profiter quand même des beaux jours en attendant le début de la saison de hockey, de préparer chacun vos poules de hockey si c'est le cas. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.